Il y a encore quelques semaines, je vous aurais dit, les yeux dans les yeux, que je ne croyais pas au supernaturel, que pour moi, tout ceci n'était que des conneries, faites pour vendre du papier ou créer des films pour ados. En fait, j'étais une connasse parfaite, imperméable à la moindre once d'humanité, l'orphelin de notre époque en quelque sorte. Et puis un soir, j'ai fait une connerie. Une soirée trop arrosée, un refus de donner mes clés alors qu'on m'y invitait, et je suis rentré chez moi, ivre, en voiture. Je peux gérer, voilà ce que je pensais. La phrase typique de l'ivrogne qui se pense plus fort que le reste du monde. Et tout aurait bien pu se passer. Si cette gamine, cette putain de gamine, n'avait pas traversé la rue sans prévenir, je n'avais pas eu le temps de freiner, et elle avait fini dans mon pare-brise encastré. Et lorsque cela arrive, je dois bien reconnaître qu'ivre ou non, on revient assez vite sur Terre. Et alors que j'aurais pu ou j'aurais dû appeler la police, j'ai fait ce que mon cerveau m'ordonnait. Comme une personne horrible, j'ai poussé le corps sur la chaussée et j'ai fui. Quelques kilomètres plus tard, dans une zone abandonnée, j'ai foutu le feu à la voiture. Des actions froides et méthodiques, dignes d'un monstre. Aujourd'hui encore, je me demande comment j'ai pu agir ainsi sans la moindre once d'humanité. Rien. J'étais une pourriture. Mais ce n'était rien par rapport à ce qui m'attendait. Dès le lendemain de l'accident, une impression d'être suivi, un sentiment de quelqu'un observer chacun de mes gestes, où que je sois, quoi que je fasse. Certains auraient dit que ce n'était que le poids de ma culpabilité qui se manifestait encore et encore, la vérité, et que ce dit poids, je l'avais noyé dès le départ dans l'alcool ou la coke. Mais là, rien n'y faisait. Quelqu'un me suivait et un soir, en rentrant chez moi, c'est là que je la vis au loin. La gamine de l'accident. Son corps déchiqueté, sourire diabolique. Il était évident qu'elle me traquait. Les médicaments, la drogue, l'alcool, j'avais tout mélangé. Et sur le coup, je me dis que ça ne pouvait être qu'une hallucination. Mais cela recommença encore et encore pendant quelques jours. Et un soir, le téléphone retentit. La police m'annonçait que mon frère était mort chez lui, un cambriolage qui venait visiblement de mal tourner. La police me demandait de venir en urgence. En arrivant sur les lieux, la première chose qui me frappa était le malaise visible dans les yeux des flics sur place. Une fois à l'intérieur, je compris enfin pourquoi. Dans l'entrée, un drap blanc avait été dressé sur le corps de mon frère. L'odeur du sang était infecte, mais ce que je vis, c'était surtout cette inscription gigantesque en lettres de sang sur le mur. Tu es la prochaine. Et c'est le soir même en rentrant chez moi que je vis la porte entrouverte. L'appartement avait été retourné. Et sur le sol, ces traces, des pas avec du sang. Et quand j'arrivais dans ma chambre, ce que je vis dans l'entrebâillement de la porte me glaça littéralement le sang. Elle était là, assise sur mon lit, avec un couteau à la main. Son corps déchiqueté tenait encore par miracle en une pièce à deux doigts de s'écrouler. Un véritable château de cartes de chair et de sang, mais dans les yeux, dans ses yeux, brillait une flamme indiquant que même si la mort n'avait pas voulu d'elle, ce n'était pas un détail physique aussi anecdotique qui allait la stopper. Tout ce que je me souviens ensuite, c'est que j'ai couru, couru en hurlant. Il fallait que je fuie le plus loin possible de tout ce cauchemar. J'ai couru de toutes mes forces. Mais pas assez pour éviter la voiture arrivant au carrefour, et comble du destin, finir à mon tour encastré encore vivante dans le pare-brise. Enfin, vivante. Pour les dernières secondes avant que la voiture n'aille à son tour s'encastrer dans un mur, réduisant en miettes, moi compris, toute la partie avant où je me trouvais. Ne jamais jouer avec le destin, il gagnera toujours, d'une manière ou d'une autre, loyal ou non. C'est en 2019 qu'on commença à entendre parler plus ou moins de choses bizarres se passant dans le métro parisien. Au début, c'était une petite histoire que l'on se racontait entre potes pour tuer le temps. Celle d'un homme, ou autre chose d'ailleurs, qui se baladait de ligne en ligne, semant des cadavres chez les SDF, et surtout chez les femmes qui s'aventuraient dans le métro. Personne n'y avait prêté attention jusque-là. Une légende urbaine. Les SDF dans le métro, on ne les voit pas. Puis d'un coup, la chose est montée en gamme. Une femme retrouvée morte éventrée dans une rame de métro dans la ligne 13. Les choses d'un coup devenaient bien plus sérieuses. On aurait voulu faire semblant de ne rien voir, de ne rien entendre, comme pour les SDF. Mais comme une douce mélodie, la psychose venait de s'installer et personne ne pouvait plus rien y faire. Et pendant les semaines qui suivirent, tout le monde hésita. Quand il s'agissait de prendre la ligne 13, même tard le soir, la suspicion, la paranoïa et l'envie de fuir envahit l'esprit des rares passagers se risquant dans les couloirs des stations. Une fois le soir venu, et d'une certaine manière, je dois admettre qu'on pouvait les comprendre. Depuis que les images du premier meurtre avaient fuité dans la presse, personne n'était plus tranquille. Mais surtout, tout le monde reprochait à la police de faire du surplace. Aucune information, aucun indice. Le tueur était un véritable fantôme et cette enquête s'annonçait comme une catastrophe sans nom. Et quand on est face à ce genre de cas de figure, cela déchaîne les passions d'une certaine frange du public, pas forcément celui qu'on voudrait voir. Celui qui envahit les recoins du net, qui cherche son shoot d'adrénaline et de danger, en se frottant la plupart du sang à des choses qu'on ne devrait même pas essayer de voir. Jonathan Ribeiro était l'un d'eux. Un adolescent pour le moins normal en apparence à quelques détails près. À 17 ans, il avait une passion pour le moins débordante pour l'étrange, le genre de choses le poussant à s'enfoncer très près, et parfois beaucoup trop loin dans les recoins du net. Et il faut reconnaître que depuis des mois, cette légende urbaine de ce tueur de la ligne 13 l'obsédait littéralement. Il voulait en savoir plus. Et à ses yeux, la seule méthode pour cela, c'était d'aller là où personne n'avait envie de mettre les pieds, le monde souterrain du métro. Au-delà du théâtre du métro parisien plus ou moins classique, il y avait l'autre monde, celui des stations désaffectées, des voies de garage, celles qui mènent jusqu'à des lieux dont même les services généraux finissent par oublier l'existence. Jonathan, pendant des mois, avait tout étudié avant même que les meurtres ne prennent de l'ampleur. Et il avait eu du nez, il avait eu l'intuition que la seule raison faisant que le tueur échappait à tout le monde était qu'il utilisait ce monde opaque pour naviguer. Personne ne portait attention à cette piste. La police semblait se faire une obligation de chercher dans le mauvais sens. Cela rendait fou Jonathan. Mais ce soir du 21 avril 2019, il s'engagea dans l'une de ces zones, et ce ne fut que le 22 avril 2019 qu'on retrouva son corps, ou du moins ce qu'il en restait, éparpillé en morceaux suite à une collision directe avec un métro. Jonathan avait visiblement tenté de fuir quelque chose qui le poursuivait, et vu qu'il ne connaissait pas aussi bien qu'il le pensait la topographie des lieux, il avait fini par déboucher en plein sur une voie de métro. Il avait fait une double erreur, marché sur une partie électrifiée et ne pas vérifier son chemin, électrocuté et déchiqueté par une rame de métro. On avait eu des morts plus paisibles. Et au milieu de la barbaque, on récupéra son sac et son caméscope. La chose était en piteux état, mais avec un peu de temps, la police scientifique réussit à sauver les cartes mémoire. Perdues dans l'immensité des archives de la police, elles ne revirent pas la lumière avant au moins plusieurs mois. Comment ? Par un coup du sort, un transfert vers un nouveau site d'archivage, un colis qui se perd, accidentellement ou non d'ailleurs. Et voici que les pièces à conviction, celles dont on n'entendait plus parler, finissent par arriver sur le net. La création d'une légende urbaine, ou plutôt le renforcement d'une légende urbaine plus ou moins tenace, celle de ce fameux tueur du métro. Ce qui avait fait fuir Jonathan dans les dédales souterrains de cet enfer, c'était une figure quasi diabolique. L'adolescent, par un coup du sort que personne ne s'expliquait clairement, avait fini par tomber sur le tueur. Et visiblement, ce dernier l'avait traqué jusqu'à la mort. Le métro et un gros paquet de malchance avaient fini par terminer le travail. Mais ces quelques bribes de vidéos extraites des cartes mémoire furent vite balayées comme des fantaisies du net par la police. Comment avouer qu'ils avaient perdu des pièces à conviction et que ces dernières arrivaient comme par enchantement sur le net? Et en haut lieu, l'affaire passa plutôt mal. Quelques jours plus tard, un nouvel incident défraya la chronique. Une jeune fille agressée dans la ligne 13. On ne sait pas comment, mais par miracle, elle finit par survivre. Elle disparut très vite des radars grâce à l'assistance de la police. Le fait qu'elle soit la nièce du préfet pesait aussi pas mal dans la balance. Son témoignage alla dans le sens de ce que les vidéos de Jonathan avaient mis en lumière. Un tueur inhumain sévissait bien dans les sous-sols de Paris, et principalement dans le métro. Cette légende, soi-disant urbaine, était une vérité pour le moins puante. Le genre de celle où beaucoup de flics allaient y laisser bien plus que la raison. La logique voudrait que quand on croise des enfants, rien ne devrait nous glacer le sang. Absolument rien. Un enfant à la base, c'est inoffensif. Enfin, encore une fois, c'est la logique qui raconte ça. Moi, la logique désormais, je l'emmerde. Je m'en méfie et si je pouvais, je me gênerais pas pour lui cracher à la gueule. Tant je sais que dans le fond, elle se fout de notre gueule justement, H24. Je suis flic. Et en 20 ans de carrière, ce que j'ai vu de déviant, malsain et pervers, c'était toujours chez des adultes. J'étais dans le lot de ces gens qui se disaient « Jamais un enfant ne fera de telle saloperie ». Puis vint cette enquête, une histoire concernant un marionnettiste dont j'ai fini par oublier le nom, un mec qui créait des automates plus vrais que nature pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde avait cru que son travail était perdu à jamais, et un jour, sans que personne ne comprenne, voilà que cela a fini par remonter à la surface. Un collectionneur tombant sur un ancien modèle, un autre découvrant des carnets de croquis que personne n'aurait jamais dû voir. Et dans la foulée de tout cela, des morts, beaucoup trop, pas de manière propre non, du sale qui fait froid dans le dos, mais qui jusque-là restait encore un peu dans le cadre de mes limites. Et voilà qu'un jour il y a eu ce coup de fil, l'école de ma petite fille. Ils savaient que j'étais flic et visiblement ils avaient voulu me joindre en premier avant les parents. Et d'expérience, je sais que lorsque cela arrive, ce n'est jamais bon signe. La gamine était venue au bureau hier. J'avais bien vu comme à son habitude qu'elle fouillait partout. Mon travail l'avait toujours fascinée, mais bon, tout était sous clé. Je m'étais pas méfié. Mais alors que je faisais le trajet vers l'école, un mauvais pressentiment finissait par me ronger de l'intérieur. Tout ce qui se passait sur Paris en ce moment me dépassait. Les meurtres sur Montmartre, ce cinglé dans le métro et ce chirurgien qui se faisait fumer par les collègues il y a quelques jours. Et ce dossier du marionnettiste, j'en avais marre de cette ambiance. Et en arrivant devant l'école, je compris. Quelque chose allait de travers les ambulances, la police, les parents qu'on ne laissait pas rentrer. Un flic m'attendait devant la porte. Il me fit signe de venir. Son visage était absolument blême. On m'amena vers la directrice de l'école, une femme d'une cinquantaine d'années. Le portrait type de celle qui semble avoir tout vu, tout vécu. Enfin du moins jusqu'à maintenant. Je lui demandais où était Jennifer. Elle n'arriva pas à dire un mot. Elle était blême comme le flic devant la porte. Elle se contenta de me faire signe de la suivre. Et c'est en arrivant dans le couloir principal que je compris la raison de tout ce merdier. Les ambulanciers sortaient des corps de la salle de cours. Des dizaines de petits corps mis à même le sol sous des draps blancs dans le couloir. C'était des gamins, mon cœur atteignait la vitesse limite possible. Je me voyais pas annoncer la mort de Jennifer à ses parents. Mais d'une certaine manière, cela aurait été moins pire que la vérité. En entrant dans la salle, je la vis. Elle était assise sur une chaise encadrée par des policiers immenses. C'est en faisant un pas vers elle que je fus tétanisé en comprenant. Son visage plein de sang, sa bouche pleine de sang, ses yeux révulsés. C'était elle qui avait massacré sa classe entière. Dans un coin de la pièce, le professeur Blandin était en train d'être soigné à même le sol, enfin soigné. Elle lui avait arraché la gorge à coups de dents. Elle me regarda en souriant. Pour la première fois de ma vie, j'eus peur. Elle me souriait, elle lâcha cette phrase. « Tu en as mis du temps. » Qui était ce monstre? Elle voulut se lever et venir vers moi, mais les deux flics l'en empêchèrent. Ce qui me déstabilisait le plus, c'était de voir ces colosses la main sur le flingue. Tout ça face à une gamine de 10 ans. Je contrôlais plus rien et c'est ce qui me fit le plus peur. Un autre flic arriva à côté de moi. Ils allaient l'emmener. Je ne la reverrai plus, c'était certain. Et d'ailleurs, vu ce qui s'était passé, est-ce que c'était un mal? Mais c'est alors que je tentais de me raccrocher à ce que je pouvais que je vis son sac à dos au pied de sa table. Il baignait dans le sang et d'autres matières dégueulasses. Mais un détail m'attira l'œil. Il y avait quelque chose qui en sortait. Un personnage de bois. Je me jetais sur le sac. Et d'un coup, je le relâchais comme si son contenu m'avait littéralement brûlé les mains. Le pantin était là. Comment est-ce qu'elle avait fait pour l'avoir? Il était dans les pièces à conviction du bureau, tout vacillait d'un coup autour de moi. C'était comme si cette saloperie me transperçait l'âme et le cœur d'un coup. J'avais provoqué la fin de ma propre famille. Impossible de me retenir. Voilà que je me mis à vomir mes tripes en plein milieu de la salle de classe. Et c'est à ce moment-là que je l'entendis rire derrière moi. Elle me regardait innocente. Tout cela pendant un court instant. J'avais presque envie de croire qu'elle avait repris enfin le dessus. Elle me regarda tout d'un coup en disant cette phrase. Pas de place pour les fouineurs, Capitaine Valenti. Et sur le coup, même les flics présents eurent un moment de flottement en l'entendant. Ce n'était pas la voix d'une enfant qui parlait. C'était autre chose. Et profitant de leur inattention, elle désarma un des flics, lui volant son arme. Tout cela pour se tirer une balle en pleine tête sous mes yeux. C'était il y a 6 mois. Et depuis, son sourire, sa voix, et l'écho de ce coup de feu, plus rien ne me quitte.